faut vraiment se représenter la scène de manière brute. On se fait arracher ses vêtements en public. On est battu à coups de fouet par les forces de l'ordre locales.
Ah, une violence inouïe.
Et ensuite, paf, j'étais dans une cellule souterraine, glaciale, avec les pieds coincés dans des instruments de torture.
Sans aucune forme de procès, en plus.
Exactement. Mais le truc, et c'est là que ça devient complètement contre-intuitif, c'est que la personne qui subit ça possède, métaphoriquement parlant, une carte sortie de prison gratuite dans sa poche.
Une protection juridique absolue.
Voilà, un statut qu'elle aurait pu invoquer à n'importe quel moment pour tout arrêter instantanément. Mais elle choisit délibérément de se taire et d'endurer la torture. Pourquoi on ferait un tel choix ?
C'est vrai que c'est difficile à concevoir. La plupart des gens, ils hurleraient pour faire valoir leurs droits à la seconde où l'on poserait la main sur eux.
C'est clair, le réflexe de survie, quoi.
Mais l'histoire qu'on analyse aujourd'hui nous montre que, parfois, le silence temporaire est la manœuvre politique la plus redoutable qui soit.
Et c'est ce qui rend notre exploration en profondeur si fascinante aujourd'hui. On plonge directement dans les recherches et la conférence académique du docteur Craig Kinner.
Un travail magistral sur les chapitres 16 et 17 du livre des Actes.
Absolument. Et honnêtement, il faut oublier l'image d'Épinal, des petits récits purement spirituels ou des leçons de morale tranquilles du dimanche.
Ah oui, là on en est très très loin.
Ce que les sources du docteur Kinner mettent en lumière, c'est un véritable thriller politique au cœur du 1er siècle. On va décortiquer les rouages d'un système judiciaire romain hyper manipulable, des émeutes de rue organisées de toutes pièces.
Des failles juridiques, un choc des cultures monumentales.
C'est ça. Mais pour bien comprendre ces dynamiques, il y a un mythe persistant qu'il faut absolument balayer dès le départ.
Ouais, le mythe de l'Empire romain uniforme. On imagine très souvent que la loi de Rome s'appliquait exactement de la même manière de la Bretagne jusqu'à l'Égypte.
Alors que c'est pas du tout le cas.
Pas du tout, non. En fait, l'Empire, c'était un cauchemar bureaucratique. Une vraie mosaïque de juridictions. Le statut légal d'une ville dictait absolument tout.
Genre la façon dont on jugeait les crimes.
Voilà. Les impôts qu'on payait, les privilèges locaux. Et surtout, et c'est le point central de notre analyse, la façon dont on traitait les étrangers qui perturbaient l'ordre public.
Et ce frottement, cette tension entre la loi locale et l'ordre impérial, on le voit de manière super éclatante dès notre premier arrêt. La ville de Philippe.
Une ville avec un statut très particulier.
Mais ce qui est dingue, c'est que ce qui déclenche toute l'affaire à Philippe, c'est pas un grand débat sur la théologie ou la philosophie, c'est un mécanisme beaucoup plus basique et universel. L'argent.
L'économie locale.
Toujours, exactement. En gros, une entreprise locale voit ses profits littéralement anéantis.
Ouais, le texte source mentionne que Paul libère une jeune esclave. Une jeune fille qui était possédée par un esprit de divination, ce qu'ils appelaient un esprit Python.
Et ça rapportait de l'argent. Ça...
Oh, énormément. Dans l'Antiquité, ces oracles étaient extrêmement lucratifs. Cette jeune fille, c'était pas juste une petite curiosité de quartier. Elle était exploitée par tout un syndicat de propriétaires.
Un vrai business, quoi.
C'est ça. Il s'enrichissait massivement sur le dos de ses prétendues visions. Donc, en la libérant de cette emprise, Paul ne fait pas juste un acte spirituel.
Il détruit leur business model.
Instantanément. Et publiquement, en plus.
C'est la faillite sur le champ pour ses investisseurs. Mais du coup, juridiquement, comment on réagissait à ça au 1er siècle ? Parce qu'aujourd'hui, bon, on engagerait des avocats pour réclamer des dommages et intérêts.
Bah, à l'époque, la procédure était beaucoup plus physique. Les propriétaires traînent littéralement Paul et son compagnon Silas devant les magistrats.
Attends, quand tu dis « traîne », c'est au sens propre.
Au sens propre, la loi romaine, avec la procédure de la « ignius vocatio », permettait au plaignant d'empoigner physiquement l'accusé si ce dernier refusait de coopérer.
Ah ouais, d'accord. Pas de convocation par courrier, quoi.
Non, on t'attrape et on t'amène. Et la géographie de cette scène est cruciale. Il les traîne sur l'agora centrale de Philippe.
Le forum romain.
C'est ça. Et grâce aux fouilles archéologiques, on connaît l'ampleur du lieu. C'est un forum massif, 70 mètres sur 150 mètres. Le cœur névralgique de la ville, juste sur la Via Egnatia.
La grande autoroute commerciale. Donc il devait y avoir un monde fou.
Un bruit assure du sang, une foule très dense. Et au centre, sur une estrade, il y a les magistrats locaux. Les strategoi, qui correspondent aux dio viri de la terminologie romaine.
Et ces deux hommes doivent rendre la justice devant tout le monde.
Sous la pression directe et immédiate d'une foule qu'ils doivent à tout prix maintenir calme. C'est une vraie poudrière.
Mais c'est là, en fait, que l'accusation prend une tournure vraiment troublante. Parce que les propriétaires, ils disent pas aux magistrats « Ces hommes ont ruiné notre affaire ».
Ce qui aurait été la stricte vérité matérielle, pourtant.
Exactement. Au lieu de ça, ils contournent complètement le litige commercial. ils décident d'attaquer sur le terrain de la sécurité nationale. Ils affirment « ces juifs enseignent des coutumes illégales pour nous, Romains ».
C'est brillant, de manière machiavélique.
Mais j'ai du mal à comprendre comment des magistrats expérimentés peuvent tomber dans un panneau aussi grossier, tu vois. Pourquoi accepter une accusation aussi manifestement xénophobe sans même chercher à comprendre le mobile financier derrière ?
En fait, c'est parce que les magistrats réagissent au climat politique plutôt qu'aux faits réels de l'affaire. Il faut vraiment comprendre l'identité de Philippe.
C'est pas une simple ville de province.
Non, c'est une colonie romaine. Ça veut dire que c'est une petite réplique de Rome, carrément plantée en territoire macédonien et peuplée principalement de vétérans de l'armée romaine.
Ah, donc des gens très à cheval sur les traditions.
Obsédés par leur statut. Ils ne payent pas d'impôts impériaux, ils appliquent le droit romain pur et dur, et plus de 80% de leurs inscriptions publiques sont en latin. Ils ont une fierté nationale à fleur de peau.
Donc, accuser quelqu'un de menacer les fameuses coutumes romaines dans une ville comme Philippes, c'est littéralement jeter une allumette dans une flaque d'essence.
Précisément. Et en plus, le timing global au niveau de l'Empire est explosif. Le docteur Kinner rappelle que l'empereur Claude à Rome vient tout juste d'expulser une grande partie de la communauté juive de la capitale.
Sous prétexte de troubles à l'ordre public, c'est ça ? Ok.
Voilà. Et donc les magistrats de Philippes, en bons représentants d'une colonie fidèle, ils calquent leur comportement sur celui de l'empereur.
L'antijudarisme n'était pas juste un préjugé de quartier alors ?
Non, c'était devenu une politique officieusement encouragée. Les plaignants le savaient pertinemment. Et ils ont exploité cette faille populiste de manière magistrale.
C'est une manipulation effrayante de l'opinion publique. Mais du coup, on ne détruit pas l'économie locale d'une ville sans en payer le prix fort. Les magistrats n'avaient ni le temps ni l'envie d'organiser un procès équitable.
Surtout face à une foule qui commençait vraiment à gronder.
Il leur fallait une victime expiatoire immédiate pour rétablir le calme. Et c'est ce qui provoque cette descente aux enfers fulgurante pour Paul et Silas.
Absolument. Le système de justice bascule dans l'arbitraire total, ce qu'on appelle la coercitio.
C'est quoi exactement coercitio ?
C'est le pouvoir de coercition directe des magistrats. Ça leur permet de punir sans procès formel, juste pour maintenir l'ordre public. Les licteurs, les gardes des magistrats, arrachent publiquement les vêtements de Paul et Silas.
En plein forum, la violence de l'acte est folle.
Surtout dans les cultures du bassin méditerranéen et du Proche-Orient antique. La nudité publique forcée, c'est l'humiliation absolue. Ça vise à anéantir la dignité sociale de l'individu avant même de le faire souffrir physiquement.
Et la souffrance physique suit très vite, avec la flagellation à coups de verge. Et ensuite, direction la prison. Mais attention, le texte précise bien qu'ils sont jetés dans la prison intérieure. Faut pas imaginer une cellule moderne avec un lavabo et une couchette.
Pas du tout, non. Concrètement, dans le monde romain, la prison intérieure s'apparente souvent à une fosse, un peu sur le modèle du célèbre Tullianum à Rome.
C'est-à-dire un espace complètement souterrain.
Souterrain, sans aucune lumière naturelle. L'air est vicié, il y fait un froid glacial, et le sol est littéralement jonché de déchets et d'excréments.
L'horreur.
Et à cela s'ajoute la torture physique continue. Leurs pieds sont fixés dans des ceps de bois.
Ah oui, les ceps. Ça empêche juste de bouger ou c'est pire que ça ?
Oh, c'est pire. Ces instruments pouvaient être écartés à l'extrême pour forcer les jambes dans des positions complètement insoutenables. Ça causait des crampes atroces et bien sûr ça empêchait tout sommeil réparateur.
Un tel environnement, c'est de l'ingénierie pure pour briser l'esprit humain.
C'est exactement le but.
Pourtant, le texte source affirme qu'à minuit, au lieu de hurler de douleur ou de s'effondrer de désespoir, Paul et Silas prient et chantent.
Ouais.
Et là, j'avoue que mon esprit critique s'active un peu. C'est pas un ajout purement littéraire et dramatique, non ? Je veux dire, le héros stoïque qui chante sous la torture, c'est un trope assez courant dans l'Antiquité, non ?
C'est une excellente observation. La philosophie gréco-romaine, et particulièrement le stoïcisme, valorisait énormément la capacité à supporter la douleur.
L'impassibilité absolue, quoi.
C'était la marque du grand homme. Mais chanter des louanges au milieu de la torture, c'est pas tout à fait stoïque.
Ah bon, ok. Quelle est la différence ?
Le stoïcien, lui, il subit en silence pour prouver son détachement total du monde matériel. Paul et Silas, eux, ils chantent pour affirmer la souveraineté de leur Dieu sur leur situation présente. C'est radicalement différent.
C'est plus actif, en fait.
C'est un acte de piété, oui, mais aussi de subversion profonde face à l'autorité romaine qui pensait vraiment les avoir réduits au silence.
Et la réponse à cette subversion arrive sous la forme d'un tremblement de terre, ultra-violent qui ébranle les fondations même de la prison. Évidemment, dans l'Antiquité, quand la terre tremble, on ne parle jamais de plaque tectonique.
Ah non, c'est toujours lu à travers un prisme théologique. Pour la population gréco-romaine locale, un tel séisme serait interprété comme la colère d'une divinité.
Souvent, Poséidon, le dieu qui ébranle la terre, c'est ça ?
C'est ça. Mais dans le récit de Luc, c'est sans ambiguïté l'intervention du dieu de Paul. Les secousses sont d'une précision chirurgicale. Elles ouvrent les portes et détachent les entraves de tous les prisonniers, sans effondrer le plafond sur eux.
Ce qui nous amène à la réaction complètement ahurissante du geôlier. Le mec se réveille, il voit les portes ouvertes, il tire son épée et il s'apprête carrément à se suicider sur place.
Un réflexe immédiat.
Paul lui crie d'arrêter, que tous les prisonniers sont encore là. Mais pourquoi le premier réflexe de ce fonctionnaire, c'est de mettre fin à ses jours ?
C'est une question de pure mécanique légale et sociale romaine. Un garde qui laissait échapper ses prisonniers subissait généralement la peine qui était prévue pour ses criminels.
Ah, la loi du talion appliquée aux gardiens.
Exactement. Et comme c'était des agitateurs publics, ça signifiait la mort. Mais une mort déshonorante, très souvent précédée de tortures publiques.
Donc le suicide, c'était une porte de sortie honorable en Susaille.
Se suicider avec sa propre épée, c'était perçu comme une façon de préserver une once d'honneur militaire. Et surtout, ça permettait d'épargner la honte, voire la confiscation de ses biens, à sa propre famille.
Mais Paul l'arrête, parce que la perspective judéo-chrétienne rejette totalement la notion de suicide noble. La vie appartient à Dieu.
Et là, le geôlier est complètement bouleversé. Il demande comment être sauvé.
Il emmène ses prisonniers blessés, il lave leurs plaies dans sa propre maison, il leur offre un repas et il se fait baptiser avec toute sa famille.
Un retournement de situation incroyable.
Oui, mais historiquement parlant, ça me pose un vrai problème. Cet homme, c'est un fonctionnaire de l'État romain. Pourquoi risquer sa vie et celle de ses enfants pour fraterniser avec des ennemis de l'État, juste à cause d'un séisme ?
C'est vrai que le risque qu'il prend est inouï. C'est pas un petit geste d'hospitalité ordinaire de fin de soirée. C'est littéralement de la haute trahison.
À ce point-là.
Pour illustrer à quel point c'est politiquement suicidaire, le docteur Kinner cite une anecdote fascinante de l'historien Flavius Joseph. Ça concerne le geôlier d'Hérode Agrippa.
Ah, raconte-moi ça.
Ce garde avait entendu une rumeur qui disait que l'empereur Tibère était mort. Du coup, pensant que son prisonnier politique Agrippa allait bientôt être libéré et devenir superpuissant, le geôlier a commencé à manger avec lui.
Il préparait ses arrières, en gros.
Il le traitait comme un hôte de marque. Mais soudain, une nouvelle officielle arrive. Tibère est bel et bien vivant.
Oups.
Exactement. Le geôlier s'effondre de terreur et rejette instantanément Agrippa. Pourquoi ? Parce que manger avec un prisonnier politique, rompre la barrière entre le puni et l'État, c'était un crime capital.
C'est exactement la même transgression que commet le geôlier de Philippe.
En asseyant Paul à sa table, il transfère publiquement son allégeance. Il ne sert plus Rome, il sert l'autorité spirituelle que représentent ces hommes.
C'est vertigineux quand on y pense.
Et cette espèce de rébellion silencieuse prend tout son sens dès le lever du soleil.
Le lendemain matin, ouais. L'intervention divine cède soudainement la place à une guerre politique hyper calculée. Les magistrats, peut-être un peu superstitieux après le séisme, envoient leur licteur avec un message super simple. Relâchez ces hommes tranquillement. Qu'ils partent sans faire de bruit.
Et c'est précisément là que Paul déploie sa stratégie la plus brillante. Face à cette proposition de sortie discrète, en catimini, il refuse catégoriquement.
Il s'adresse aux gardes et révèle ce qu'il avait gardé sous silence depuis la veille. Il est citoyen romain.
Une annonce qui fige littéralement tout le système judiciaire sur place.
Mais avant de parler de l'impact politique, arrêtons-nous un instant sur la mécanique de cette citoyenneté. Comment les magistrats pouvaient savoir qu'ils disaient la vérité ? Paul n'avait pas de passeport, ni de carte d'identité scannée avec un QR code. Qu'est-ce qui empêchait n'importe quel vagabond de crier « Je suis citoyen romain » pour éviter de se faire fouetter ?
La dissuasion reposait sur la brutalité absolue de la loi. Usurper la citoyenneté romaine, c'était un crime passible d'une exécution immédiate.
Donc crucifixion ou décapitation.
Exactement. Mentir sur un tel statut, c'était presque suicidaire. Et en plus, même sans pièce d'identité moderne, l'administration romaine était redoutable.
Il tenait des registres ?
Absolument. Les naissances des citoyens étaient enregistrées sur des diptyques en bois, les tabulets professionaux. Des copies étaient conservées dans les archives provinciales et à Rome.
Donc un magistrat méfiant pouvait, en théorie, geler la procédure judiciaire.
Geler la procédure, envoyer des courriers en Asie mineure pour vérifier les registres à Tars, la ville d'origine de Paul. Si Paul avait menti, il savait que la vérité éclaterait. Et les magistrats savent qu'il le sait. C'est pour ça qu'ils prennent sa déclaration très au sérieux.
Et la loi Julienne est hyper stricte là-dessus. Il est formellement interdit de lier, de battre ou de torturer un citoyen romain qui n'a pas été jugé en bonne et due forme.
Or, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Publiquement en plus.
Mais c'est là que certains historiens modernes tiquent un peu. Si ce statut était si inviolable, pourquoi, dans ses propres lettres, Paul ne se vante-t-il pas de cette citoyenneté? Et pourquoi il n'utilise pas les trois noms traditionnels, les fameux trinomina, qui marquaient habituellement un vrai Romain?
C'est un point de scepticisme très classique, mais que le docteur Kenner démonte avec beaucoup de minutie. D'abord, cette exigence absolue des trinomina, praenomen, nomen, cognomen, pour la vie quotidienne, c'est un mythe.
Vraiment ?
Oui. Les documents montrent que même un aristocrate hyper puissant comme Pline le Jeune utilisait rarement ces trois noms dans ses correspondances courantes.
Ah, intéressant.
Et puis, des études épigraphiques sur les tombes de juifs qui étaient aussi citoyens romains montrent que sur une cinquantaine d'inscriptions, aucune n'emploie les trois noms.
D'accord, mais comment un juif de Tarse a-t-il pu obtenir ce statut à l'origine ?
C'est très bien documenté. Des décennies plus tôt, le général Pompée avait ramené des milliers de captifs judéens à Rome comme esclaves. Avec le temps, beaucoup ont été affranchis.
Or, l'affranchissement romain conférait automatiquement la citoyenneté, c'est ça ?
C'est tout à fait ça. Il est donc fort probable que les ancêtres de Paul aient acquis le statut par cette voie. Et son nom, Paulus, c'était un cognomène romain très classique, qui valide cette intégration culturelle.
Bon, les preuves historiques sont très solides. Mais ça nous ramène à ma toute première question, celle de notre intro. Pourquoi ne pas l'avoir dit avant d'être torturé ? C'est ça qui m'échappe. Il aurait pu tout stopper d'un veau.
C'est la grande question. Hein.
J'ai réfléchi à ça, et la seule analogie qui me vienne à l'esprit, c'est celle de la fourrière.
De la fourrière ?
Ouais. Imagine que quelqu'un vienne pour remorquer ta voiture en toute illégalité. Tu as toutes les preuves, les reçus de stationnement, la carte grise dans ta poche. Au lieu d'arrêter l'employé, tu recules, tu le laisses embarquer la voiture, la rayer, l'emmener au dépôt.
D'accord.
Pourquoi ? Parce que si tu l'arrêtes sur le champ, l'employé s'excuse, il repart et l'affaire est close. Mais si tu le laisses commettre l'infraction jusqu'au bout, tu peux ensuite engager des poursuites massives, forcer le directeur à s'excuser publiquement et créer un précédent inattaquable. Plus personne ne touchera à ta voiture.
C'est une excellente métaphore. Ça permet vraiment de comprendre la manœuvre géopolitique de Paul. S'il avait invoqué sa citoyenneté sur l'agora, dans le tumulte, la foule l'aurait peut-être lynché avant que les magistrats n'entendent rien.
Ou alors les magistrats l'auraient enfermé des mois pour vérifier à Tarse.
Exactement. Mais en les laissant commettre une faute lourde, il inverse totalement la dynamique du pouvoir. En exigeant que les magistrats viennent en personne, dans la prison, pour s'excuser et les escorter hors de la ville. Paul ne cherche pas à nourrir son ego.
Il crée un bouclier politique.
Un bouclier, oui.
Un bouclier pour ceux qui restent. Parce que lui, il part. Mais il laisse derrière lui Lydie, la femme d'affaires chez qui la communauté a commencé, et surtout ce fameux geôlier qui a risqué sa vie.
Absolument. En forçant l'administration locale à s'humilier publiquement, il s'assure que ses magistrats y réfléchiront à deux fois avant de s'attaquer aux associés locaux de cet étrange citoyen romain qu'ils ont illégalement brutalisé.
Bah oui, s'ils se plaignaient à une autorité supérieure, leur carrière et même le statut privilégié de la colonie pourraient être anéantis.
Le coup d'échec est remporté.
Remporté à Philippe, oui. Mais Paul et Silas savent qu'ils ne peuvent pas jouer avec le feu éternellement. Ils quittent la ville. Et là, on passe à de l'endurance pure. Le texte nous dit qu'ils empruntent la fameuse Via Ignatia et ils marchent...
À environ 55 km par jour.
55 km. Avec le dos encore à vif après les coups de fouet, c'est dingue. Ils traversent Amphipolis, Apollonie, pour arriver à leur prochaine destination, Thessalonique.
Et là, le contraste bureaucratique avec Philippe est total. Thessalonique n'est pas une colonie.
C'est quoi, alors ?
C'est une métropole florissante de 200 000 habitants. Et surtout, c'est une ville libre.
Qu'est-ce que ça change concrètement sur le plan légal pour eux ?
Ça change tout. Une ville libre conservait ses propres lois grecques, sa propre assemblée populaire, le démos, et ses propres magistrats locaux. D'ailleurs, le texte utilise un mot très précis, les politarches.
Les fameux politarches.
C'est un terme spécifiquement macédonien. Pendant longtemps, la critique historique a cru que Luc l'avait inventé. Jusqu'à ce que l'archéologie exhume plein d'inscriptions le confirmant.
Ah, la validation par les pierres.
Toujours. Et l'enjeu vital pour une ville libre, c'était de prouver en permanence à Rome qu'elle savait maintenir l'ordre toute seule. Si une émeute éclatait et n'était pas maîtrisée,
Rome pouvait intervenir et révoquer leur statut salès.
Exactement. Imposer des garnisons, exiger de lourds impôts. Donc, ces polytarches vivaient dans la terreur constante d'un incident qui attirerait le regard de l'empereur.
Et c'est bien sûr sur cette corde ultra-sensible que les adversaires de Paul vont jouer. À Thessalonique, Paul commence à prêcher et attire beaucoup de monde. Et le texte mentionne spécifiquement un grand nombre de femmes de la haute société.
Ouais.
D'ailleurs, parenthèse, pourquoi ces femmes de l'aristocratie païenne étaient-elles si réceptives à ce message-là?
Eh bien, il y avait dans l'Empire ce qu'on appelait les crayons-dieux. Beaucoup de Romains et de Grecs de milieux aisés étaient un peu dégoûtés par l'immoralité perçue du panthéon païen.
Et par la rigidité de la société, non?
Complètement. Le patriarchat romain, où le pater familias avait carrément droit de vie ou de mort sur sa famille, c'était pesant. Du coup, le monothéisme strict et l'éthique de la communauté juive, et par extension chrétienne, exerçaient une énorme force d'attraction sur ces femmes de l'élite.
Ça leur offrait une dignité intellectuelle et spirituelle différente.
Qu'elles ne trouvaient pas dans les cultes civiques traditionnels.
Sauf que ce succès dérange profondément l'ordre établi. Les opposants, voyant qu'ils ne peuvent pas gagner sur le terrain des idées, ils changent de stratégie. Ils utilisent ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un rantamob.
Ouais, des casseurs à louer.
Ils descendent sur la place du marché, recrutent des oisifs et des fauteurs de troubles et déclenchent une véritable émeute ciblée contre la maison d'un certain Jason. Jason, c'est celui qui hébergeait Paul.
Sauf qu'ils ne trouvent pas Paul.
Alors ils s'emparent de Jason. Ils le traînent devant les fameux polytarches. Et là, l'escalade des accusations, ça donne des frissons. Écoute bien ce qu'il crie. Ces hommes agissent contre les édits de l'empereur en disant qu'il y a un autre roi, Jésus.
Et là, on sort la carte de l'arme nucléaire du droit romain.
C'est de la trahison pure.
C'est l'accusation de maiestas, le crime de lèse-majesté. C'est de la haute trahison politique. Les accusateurs sont des caméléons d'une intelligence redoutable.
C'est clair. À Philippe, ville de colons, ils jouaient sur la pureté des coutumes romaines.
Mais à Thessalonique, ville libre, hantée par la peur de perdre ses privilèges, ils brandissent la seule accusation que les polytarches ne peuvent absolument pas ignorer sans risquer leur propre tête.
La sédition contre César. Mais ils n'ont pas besoin de prouver qu'il y a une rébellion armée. Hein. Prononcer le mot « roi », ça suffisait vraiment à paralyser le système.
Totalement. Faut se mettre dans l'esprit impérial romain. Affirmer l'existence d'un nouveau souverain cosmique, c'était implicitement prophétiser la chute du régime actuel.
Ah oui, la paranoïa impériale.
Elle était immense. La simple rumeur d'un changement de pouvoir valait une condamnation à mort. Pour te donner un ordre d'idée de cette hystérie, de simples astrologues ont été bannis de Rome juste parce qu'ils avaient analysé la trajectoire d'une comète en affirmant qu'elle annonçait la fin d'un règne.
Une comète? Sérieusement?
Ouais. Alors imagine des prédicateurs étrangers affirmant ouvertement qu'un nouveau roi nommé Jésus dirige le monde. Les polytarches sont pris au piège. S'ils ne condamnent pas ça, le gouverneur romain les accusera de complicité de trahison.
Et du coup, leur seule issue pour calmer la tempête sans déclencher un massacre immédiat, c'est la manœuvre financière. Ils imposent à Jason le versement d'une caution considérable.
Ils prennent son argent en otage, en fait.
Pour garantir que Paul quittera Thessalonique immédiatement et n'y remettra plus jamais les pieds. Paul est forcé de s'enfuir dans la nuit.
Si on synthétise toutes ces dynamiques que le docteur Kenner a mises en lumière, on est vraiment à des années-lumière des petites paraboles lues de manière complètement désincarnée.
Complètement.
On a affaire à des textes qui documentent avec une précision chirurgicale la friction brutale entre une idéologie nouvelle et la machine implacable de la bureaucratie romaine. L'expansion de ce mouvement, c'était de la survie stratégique quotidienne dans un champ de mine géopolitique.
C'est exactement ça. L'histoire avance rarement sur de nobles idéaux immaculés. Elle avance à travers des foules manipulables, des luttes de pouvoir, des failles judiciaires qu'on exploite de justesse.
C'est ça.
Mais avant de clore cette analyse, il y a une réalité humaine collatérale dans tout ce théâtre politique qui me laisse un peu un goût amer. Une question qu'on aborde finalement très peu. Qu'est-il arrivé à Jason?
C'est vrai. C'est le dommage collatéral silencieux par excellence.
Oui, parce qu'on a toujours tendance à lire l'histoire par-dessus l'épaule des acteurs principaux. Paul et Silas sortent de la ville de nuit, sous escorte. Ils continuent leur route, ils fondent des communautés à Athènes, à Corinthe. Ils vont rédiger des lettres qui changeront le monde.
Leur mission continue, ouais.
Mais Jason, lui, il n'a pas pris la route de nuit. Jason est resté à Thessalonique. Il a été délesté d'une fortune pour cette caution. Le lendemain, il a dû constater les dégâts dans sa propre maison.
Sa maison qui avait été saccagée par la foule.
Et surtout, il a dû sortir dans la rue, aller au marché local et croiser le regard des mêmes voisins, des mêmes commerçants qui avaient formé la foule, cherchant à le lyncher quelques heures plus tôt.
C'est effrayant quand tu y penses.
Dans les grands bouleversements structurels de l'histoire, on célèbre toujours ceux qui portent le grand message. Mais combien de ces héros anonymes pèsent secrètement, silencieusement et très lourdement le prix des tempêtes idéologiques que les grands hommes ne font que traverser? Et comment faisaient-ils, le jour suivant, pour continuer à vivre parmi ceux qui avaient voulu leur perte? C'est peut-être là, au fond, que réside la véritable endurance.